Il est 9h41, merci d'ouvrir bien grand votre antenne à l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Wallace Cotra, vous avez grandi dans la culture kanak en Nouvelle-Calédonie. Autant dire que vous êtes pétri d'une histoire aux coutumes prégnantes et très ritualisées, indéfectible socle d'une société clanique, donc également fortement divisée. Vous avez vécu comme citoyen, mais aussi comme journaliste, la lutte pour l'indépendance de ces îles où le sang a coulé, où tous n'ont pas encore pardonné. Aujourd'hui, vous dirigez des chaînes qui règnent sur trois océans. Elles sont une courroie entre la métropole et ses outre-mer. À vous, plus qu'à aucun autre, on a envie de demander à quoi sert la télé. Dans un contexte où les publics, à l'image de l'époque, s'avèrent de plus en plus communautarisés, plus fragmentés et les discours plus arc-boutés que jamais, la télé demeure-t-elle un lien social? Et ce n'est pas rien, le lien dans la culture kanak. C'est le nerf, non pas de la guerre, mais de la vie. Bienvenue à France Inter, Wallace Cotra.
Bonjour Sonia.
Votre titre, exact, directeur exécutif en charge de l'outre-mer, ça fait de vous le patron de France Eau et même le premier ultramarin à la tête du réseau.
Les médias sur France Inter, c'est l'instant M par Sonia De Villers.
Alors, un petit mot sur l'actualité d'abord. Le premier concerne France Télévisions. Le verdict a été sévère. Le Sénat a rejeté hier le projet de France Télévisions, pointant la difficulté à mener la réforme, des hypothèses économiques trop fragiles et des choix politiques contestables. Parmi les nombreux sujets pointés par le rapporteur, dont l'avis n'est que consultatif, hein, je le rappelle, on trouve les effectifs de France 3, je cite le sénateur, l'équivalent de l'ensemble des personnels des groupes de TF1 et M6 réunis, chiffre qui mérite d'être pris à bras-le-corps. Également le prix que notre service public paye parfois des fictions américaines ou encore le recours à des intermittents extérieurs plutôt qu'aux moyens de production internes à France Télé. Plus globalement, c'est l'absence de réforme de la redevance à laquelle le gouvernement n'a pas voulu toucher qui pose problème, d'ailleurs qui nous concerne nous aussi ici à Radio France. C'est tout l'avenir de l'audiovisuel public qui repose désormais sur une incertitude financière. Les salariés d'Itélé en grève ont bien été reçus hier par Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+, qui en a dévoilé un peu plus sur la grille de la chaîne prochainement rebaptisée CNews. Jean-Marc Morandini passerait à 9h, donc pile en face de son ancienne émission sur Europe 1. Pascal Praud, le journaliste sportif, de 10 à 11. Des pistes, en effet, confirmées pour faire venir Éric Zemmour ou les frères Bogdanov à l'antenne. Tous les observateurs pointaient hier. Par ailleurs, la désertion des annonceurs dans la tranche média, animée depuis lundi par Jean-Marc Morandini. Wallace Cotra, vous voulez dire un mot sur cette actualité média?
Peut-être sur
côté public, côté privé,
voilà,
côté public.
Peut-être sur le com et le Sénat. Je pense que c'est important qu'il y ait un débat entre les grandes forces politiques du pays sur le service public. Mais je trouve que c'est peut-être le moment aujourd'hui d'avoir un consensus national sur cela. Parce que le pays est fragmenté, il y a une sorte d'inquiétude et que c'est important qu'il y ait une force du service public. Et ça, je crois que c'est ni de droite ni de gauche. Il faudrait qu'on trouve les moyens d'avoir une approche commune.
Justement, on va en parler. Qui êtes-vous, Wallace Cotra? Je crois que c'est la première fois que je pose la question comme ça à mon invité, la première fois que j'aimerais qu'il raconte une île, Tiga, ses possibilités, comme dirait le romancier, et ce qu'il en a gardé, Tiga.
D'abord, c'est l'infiniment petit du monde. Je crois qu'on a du mal à imaginer, mais jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu dans cette île qui est également une communauté, une tribu de 150 habitants, où je connaissais tout le monde. C'est-à-dire, c'est très rare maintenant dans la vie de vivre dans un pays, où, enfin, dans un territoire où on connaît tout le monde, où il y a la proximité, il y a le regard de l'autre. Où parfois, le matin, quand je me levais, je suis dans une autre maison et c'est une autre maman qui me prépare pour aller à l'école et puis je regagnais la case de la famille, etc. Et donc j'ai vécu dans ce cocon-là. Et ensuite, à l'âge de 7 ans, j'ai connu Nouméa, qui est l'autre référence importante, parce que c'est là où le pays se construit, où les gens arrivent un peu de tous les côtés de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est moi une prise de conscience qu'on est plus que cette petite île, c'est un pays. Et ensuite, après, j'ai fait mes études en métropole et j'ai découvert autre chose aussi.
Voilà, vous êtes devenu journaliste.
Voilà.
Vous avez exercé à RFO, vous avez été journaliste politique, puis directeur de l'info à RFO. Dans les années 80-90, vous couvrez ce que vous qualifiez vous-même, la période la plus trouble, la plus tourmentée, la plus noire de la Nouvelle-Calédonie dans son histoire contemporaine et récente. Les années du soupçon et de la haine, on se souvient des mots de Michel Rocard.
Jean-Marie Tjibavou est mort, assassiné. La communauté Kanak perd un leader généreux. La Nouvelle-Calédonie, un homme de réconciliation. Et moi, un ami.
Il y a une émotion dans cette archive, une émotion dans sa voix de la revoir, c'est très frappant. Comment les avez-vous vécues, vous, Wallace Cotra, ces années-là, en tant que citoyen et aussi en tant que journaliste ?
Alors il y a d'abord la tragédie, finalement, c'est-à-dire que une époque où finalement on n'arrivait plus à se parler, à discuter, etc., où finalement on a connu cette période-là. Et puis aussi, l'émergence d'hommes et de femmes qui ont essayé de gérer, nous sortir de ce traquenard, d'une certaine manière, sortir de cette situation difficile, et où il y a eu des gens chez nous, donc en Nouvelle-Calédonie, Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibavou et d'autres. Et puis, au niveau national, aussi des personnalités comme Rocard, et puis d'autres personnalités qui ont suivi. Et finalement, il y a cette sorte de dualité entre, d'une part, cette tragédie qu'on a connue, qui nous a entraîné dans une sorte de turbulence tragique, et puis, et aussi cette force d'optimisme qui est de dire, même quand c'est compliqué, il y a des gens qui peuvent trouver des solutions et il y a une porte toujours qui peut s'ouvrir. Et je crois que c'est un peu ce processus qui s'est déclenché en Nouvelle-Calédonie à partir des accords de Matignon.
Voilà, et vous avez consacré livres et films aux leaders militants indépendantistes, un documentaire, Jean-Marie Tjibavou, La parole assassinée. Je précise qu'il y a un point d'interrogation. Un livre tout récent consacré à un chef coutumier militant indépendantiste à l'origine des foulards rouges. Qu'est-ce que c'est que les foulards rouges ?
Les foulards rouges, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas un mouvement politique, c'est pas un mouvement culturel. Nidoj Nasin lui-même dit que ça ressemble un peu au surréaliste, un phénomène qui émerge de nulle part, et c'est une sorte de volonté des Kanaks de dire qu'il y a aussi de la beauté dans cette civilisation, quoi. Alors qu'on est négligé, on ignorait même, et de dire finalement c'est une revendication pour la beauté.
Alors c'est une revendication culturelle à fort caractère politique.
Oui, alors ça s'est inscrit ensuite dans, ouais. Parce que c'est l'idée que on sortait d'une période où il y avait une perte de repères chez les Kanaks, parce qu'ils n'avaient pas de place dans la société calédonienne. Et que c'était important qu'on se reconnaisse entre nous. Nasline, d'ailleurs, dit lui-même qu'on peut donner aux autres que si on est riche nous-mêmes. Il faut retrouver la richesse qui est en nous. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que une des inspirations de Nasrin, finalement, le jeune étudiant qui a connu, donc qui est venu faire ses études en métropole et tout, ça a été la rencontre avec les poètes de la Renaissance. Et alors c'était très étonnant parce qu'on pensait que c'était une... Et pour lui, la Renaissance, c'est les Français qui redécouvrent la beauté de leur pays. Et il cite ce vers de Dubélé qui dit « Plus que le mont Palatin, la douceur angevine ». Il dit, mais en Calédonie, on devrait découvrir cette beauté-là en nous, plutôt que d'aller chercher ailleurs, etc. Et je crois que c'est ça qui a été à l'origine des foulards rouges, ce que portait le grand chef.
J'aime beaucoup l'idée qu'en Nouvelle-Calédonie, on devrait se nourrir de la douceur angevine. On va s'arrêter un instant, Wallace Cotra, sur votre film documentaire que j'ai vu visionner hier et que j'ai trouvé absolument bouleversant. Tjibavou, le pardon, il sera diffusé le 13 novembre, moi je le redirai, pour qu'on puisse y penser dans la case archipel sur France O. C'est l'histoire d'une réconciliation. Août 2004, c'est la famille d'un assassin qui vient à la rencontre de la famille de sa victime. C'est le clan Wea qui traverse l'archipel pour se rendre chez les Tjibavou.
Parmi les gens de la foule, il y a un jeune homme qui se détache et puis qui vient, qui m'embrasse et puis me dit « Pardon madame, vous ne me connaissez pas, mais je viens vous dire merci. Moi je suis l'un des fils de l'assassin de votre mari. » Et donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on ne pouvait pas les laisser dans cette souffrance, quoi. Il fallait les libérer de ça.
Il fallait les libérer de ça. Je trouve ces mots absolument magnifiques et absolument poignants. C'est un film sur le pardon qu'on ne peut pas, ne pas regarder Wallace Cotera en pensant aujourd'hui à la situation de notre pays si divisé, si fragmenté, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure.
Alors j'ai participé à plusieurs projections de ce documentaire un peu partout et à chaque fois il y a une réaction des gens qui d'abord sont bouleversés et puis qui ramènent à eux-mêmes. Mmh. Finalement, Tshibahu et les deux veuves, Marie-Claude Tshibahu et Mana Kiwea, finalement, malgré la mort de leur mari, l'assassinat finalement de Jean-Marie Tshibahu, se sont réconciliés.
Et je précise que l'assassin de Jean-Marie Tshibahu a été lui-même exécuté par le garde du corps, donc ils sont morts tous les deux.
Et ces deux femmes décident de se pardonner, se dire les choses entre elles, les paroles fortes entre elles, et on se dit mais finalement. Ça parle à tout le monde et que aussi bien individuellement que au niveau social, il y a une force de ce témoignage-là qui fait que d'abord nous en Nouvelle-Calédonie, on se dit, on est confronté à un avenir difficile, mais si ces deux femmes ont réussi à faire ça, on peut être optimiste sur la suite.
En plus, elles le font parce qu'elles ne veulent pas laisser leurs enfants emprisonnés dans la haine. Et ça aussi, ça résonne énormément. C'est-à-dire que nous, on voit bien une société qui a hérité des non-dits, des tabous, des haines, des humiliations de la génération précédente.
C'est une tradition un peu calédonienne qui est de dire, il faut dire les choses. Vous savez, quand il y a eu les accords de Nouméa, il y a eu un préambule où les hommes politiques des deux bords de Nouvelle-Calédonie ont écrit les choses. On dit la colonisation, c'est ça. Et puis nous, voilà, il y a eu des souffrances des deux côtés. Et là, on veut construire l'avenir sur cette base-là. Et je crois que c'est ça que ces deux femmes nous enseignent, quoi. C'est qu'il faut se regarder dans les yeux et dire les choses pour construire l'avenir.
On va écouter le fils de Jean-Marie Tshibahu qui raconte cette rencontre, qui est magnifique à voir, très émouvante à voir à l'image.
Crainte et humilité précède mes propos. Ô terre, terre de nos ancêtres, terre de nos vieux, terre de Tshibahu, terre de nos morts.
Je ne me souviens pas de cette cérémonie-là. Tout ce que je me souviens de son discours, c'est crainte et humilité. Puis quand je voyais ses genoux, je voyais la pelouse, comme si toute la pelouse était couverte de sang. C'est tout ce que je voyais. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, je voyais le sang qui descendait, comme si la terre, elle buvait tout le sang. Puis à la fin, toute la pelouse était verte, il n'y avait plus de sang, comme après les fortes pluies, tout ça.
Alors évidemment, je le disais, Wallace Cotera, dans ce film, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec toute notre histoire française telle qu'on la vit de manière très heurtée, très arc-boutée aujourd'hui. Il y a quelque chose, par exemple, que l'on découvre, enfin pour moi, pour ma génération qui ait grandi en métropole et qui ait tant de lacunes sur ces histoires-là, c'est que Tshibahu était prêtre catholique et que Wea était pasteur protestant. Et qu'il y a toute une histoire de communauté religieuse aussi.
Il y a tout, communauté religieuse, communauté coutumière... Mm-hmm. culturel, etc., et que malgré leur proximité, ils se sont opposés à la fin. Et donc, toute la problématique des deux femmes, c'est de dire comment on sort de tout ça, quoi. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Tshibahu et Wea, c'est Uvea et Tiendanit. C'est-à-dire, c'est vraiment des petites communautés excentrées de notre pays. Et ce qu'on essaye de faire dans ce pôle Outre-mer de France Télévisions, c'est que ces petits bouts de parole-là, ces petites expériences, ces histoires singulières, on veut le partager. Et c'est important que tout le monde le partage sur France O. Et on dit, bien sûr, il y a la grande histoire, il y a les grands... Mais il y a aussi ces petits... Et que on s'enrichit à se découvrir les uns les autres. Et c'est un peu l'ambition que nous essayons de faire avec une case histoire, avec une journée en Outre-mer, avec tous ces programmes, avec ce qu'on offre au niveau musical, etc. C'est d'être attentif à ces expériences singulières et ces regards-là sur le monde.
Parce que vous réunissez au sein de votre pôle, Wallace Cotera, des regards d'une infinie multitude et d'une infinie variété.
Tout à l'heure, vous parliez, par exemple, de tous les sujets qui concernent le pays aujourd'hui, l'immigration, l'identité, la référence citoyenne, comment on vit ensemble, comment on regarde l'autre. Et quand on regarde l'Outre-mer, il y a 9 expériences différentes. Et ça relativise ce débat-là. Le débat sur le burkini, j'ai vu sur France Info, puisque nous sommes présents également sur France Info, j'ai vu une déclaration d'une femme de Mayotte, où c'est une collectivité entièrement musulmane. Hein, on oublie en France, hein, c'est un département musulman qui dit « Mais moi, je veux me baigner à la mer habillée ou je veux me baigner tout nu, je veux faire ce que je veux. » Ben, c'est important qu'une musulmane française dise ça dans ce débat-là. C'est important de savoir que, par exemple, sur le débat sur l'islam, la présidente du Conseil général de la Réunion, elle ne le dit jamais. Et Madame Nassida Dindar, c'est une musulmane et c'est en France. Et elle a un point de vue sur le pays et voilà. Et c'est important de partager cela, quoi.
Alors justement, il faut reparler de la façon dont Françoise est remis aujourd'hui sur ses rails, parce que Françoise était devenue une sorte de chaîne de la diversité. Donc elle était un peu la chaîne de tout le monde et puis la chaîne de plus personne. Donc ça mélangeait des talk-shows, des animateurs, chroniqueurs, black blanc-beurre. D'ailleurs, ça faisait du bien parce que,
bien sûr,
parce que c'était quand même une vraie bouffée d'air, mais aussi des telenovelas brésiliennes, etc. On a, c'est une vraie volonté politique hein, de la part de Françoise Hollande. Françoise redevient la chaîne des Outre-mer.
Et puis, moi je suis venu pour ça. Mm-hmm. C'est-à-dire Madame Ernotte, notre présidente, mais l'arrivée décomplexée de l'Outre-mer. Et ce n'est pas seulement l'Outre-mer.
Qu'est-ce que ça veut dire décomplexée ?
C'est-à-dire qu'on a notre histoire, on veut participer, on n'est pas là pour revendiquer des choses. On dit, mais voilà, cette histoire-là de Marie-Claude Tibaou, on veut le partager avec les autres. Ce n'est pas une leçon donnée aux autres. Et on veut le partager comme on veut partager cette situation particulière de la Guyane qui doit gérer une communauté où il y a 45-50% d'immigration. Mm-hmm. Et ils arrivent à le gérer, comme je veux raconter, voilà, ces recherches identitaires aux Antilles, avec des peuples qui ont été marqués par l'histoire de l'esclavage, etc. Mais, et puis, on peut parler de l'environnement, etc. Voilà, c'est tout ça que... ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nous enfermer dans un outre-mer géographique seulement. Ouais. Je crois que c'est le vieux Césaire qui disait « Nos pays ne sont pas que des paysages. Il y a aussi des hommes et des femmes qui vivent, qui ont une histoire, etc. » Et c'est ça qu'on veut partager. Et dans ce qu'on vit... Ça vous intéresse aussi.
Je crois qu'on aura rarement eu aussi beau mot de la fin. Merci beaucoup, Wallace Cotra. Bonjour, Ali Rebehi. Faut prendre le micro derrière Aimé Césaire. Allez-y.
Dans Grand Bien Vous Fasse, on se demande comment rendre nos assiettes plus vertes, comment manger de façon plus écolo. Dites-nous quelles sont les initiatives que vous prenez pour manger plus écolo au 01 45 24 7000.
Dites-nous ce que vous mangez à midi. Allez, c'est après les infos.